seconde sagesse, qui est encore une sagesse acquise, mais qui présuppose un don, la foi. Notre théologie a une valeur plus ou moins grande suivant que notre foi est plus ou moins divine. La foi est le point de départ. Donc, il n'y a pas de recherche de principe. En théologie, en philosophie, on cherche des principes. On cherche des ratios. La théologie ne nous donne aucun concept nouveau. Puisque la foi ne nous donne pas de nouveaux concepts. La foi est une connaissance très particulière. Une connaissance d'enfant, où l'amour passe avant l'intelligence pour croire. Pour croire, il faut beaucoup aimer. Et quand notre foi se rationalise, comme hélas, ça existe souvent chez beaucoup de théologiens, quand notre foi se rationalise, notre pénétration dans le mystère de la parole de Dieu diminue. Et par le fait même, toute la théologie s'en ressent. Il ne faut pas être des saints pour être des théologiens, mais c'est dommage que ce ne soit pas des saints qui fassent cette théologie. Vous voyez, c'est le grand danger d'aujourd'hui. C'est qu'à la place d'avoir des études monastiques, on a des études universitaires. Au point de vue théologique. On est fasciné par l'université. Je me souviens de cette parole du père Congar, comme il est dans le ciel, il est d'accord maintenant avec moi. J'espère que je suis d'accord avec lui. Mais à ce moment-là, le père Congar revenait d'avoir été pendant la guerre dans des camps de concentration avec d'autres intellectuels qui étaient des Sorbonnards, des universitaires. Et ils disent, c'est quand même désolant que ces gens-là ne comprennent pas que la théologie est aussi une science. Je n'ai rien dit. J'ai envie de lui dire, mais non, la grandeur de la théologie, c'est d'être une sagesse. Elle est une science subalternée. Alors qu'il dit que science subalternée, ça veut dire une science de pauvre. Elle est subalternée à la vision béatifique. Alors évidemment qu'on est subalterné à la vision béatifique, on est très riche, on est très grand, on est sage. Et ça veut dire que c'est une science qui, comme science, et seconde, elle n'est jamais autonome. Elle est toujours dépendante de la foi. Et donc, elle est dépendante du degré de foi que nous avons. Si nous avons une foi de saint, où l'amour permet de s'approcher plus du mystère, l'amour divin, alors, la théologie peut être très belle, mais si nous avons une foi qui ne s'est pas développée beaucoup, et on a développé énormément tout l'aspect scientifique de la théologie. Alors la théologie devient lamentable. Elle tombe dans le point de vue rationnel, dans le point de vue logique. Or, la logique n'a rien à faire avec la théologie, rien à faire directement. Elle a à faire indirectement pour la communication de la théologie. Mais la théologie est au-delà de la logique, puisque la foi est au-delà de la logique. Et qu'elle est une connaissance d'enfant vis-à-vis de Dieu. On est suspendu à la révélation. Le statut de la théologie est très curieux, hein, et très intéressant du reste, mais très particulier. La théologie n'est jamais simple, hein. La foi peut l'être. La philosophie peut l'être, la métaphysique peut l'être, mais la théologie est toujours une science et comme sagesse. Elle est subalternée, c'est-à-dire qu'elle est seconde. Elle est dépendante de la foi. C'est très important. Pour juger d'une thèse de théologie, pour avoir le grade de docteur en théologie, il ne faut pas seulement avoir une connaissance humaine, historique. S'il n'y a pas la métaphysique, votre théologie sera nulle. C'est ça qui est terrible. Vous ne pouvez pas faire une théologie à partir de l'histoire. Alors vous faites de l'histoire des doctrines. Mais l'histoire des doctrines n'est pas une théologie. C'est annexe à la théologie. C'est important, c'est très intéressant, mais l'histoire des doctrines reste l'histoire. C'est très important, l'histoire des doctrines. Mais ce n'est pas ça qui vous rend théologien. Pour être théologien, et le Saint-Père le dit avec une netteté dans son encyclique, pour être théologien, il faut adhérer à la parole de Dieu pleinement et il faut se servir de la métaphysique. Seule la métaphysique peut être au service de la foi dans une théologie. L'histoire ne peut pas. Parce que l'histoire reste liée au devenir. Et le devenir n'est pas directement ce qui peut expliciter le donné de foi. La foi adhère à ce qui est, surnaturellement, à ce qui est révélé directement. Alors, vous pouvez mettre votre histoire au service de la théologie, mais vous ne pouvez pas considérer que votre histoire est théologique. Vous voyez, alors, quand la métaphysique disparaît, comme dans notre monde d'aujourd'hui, on peut dire que maintenant, la métaphysique disparaît. On ne fait plus de métaphysique. les séminaires. Dans les séminaires, on peut un tout petit peu de philosophie pour surtout étudier les philosophies modernes et contemporaines. Et on ne sait plus ce que c'est que la métaphysique. Et par le fait même, il y a une baisse terrible de la théologie. Elle est remplacée par l'histoire des doctrines ou l'histoire de tel ou tel théologien. On fait une thèse sur la grâce chez Barthes. Mais l'histoire. Et on montre que cette thèse est différente que ce que nous dit saint Augustin. Saint Augustin, c'est du reste très intéressant à regarder. Il y a un traité de saint Augustin très beau sur la très sainte Trinité. Il y a Thomas d'Aquin, traité sur la très sainte Trinité. Et il y a dans Thomas d'Aquin un premier traité de la très sainte Trinité à la Pierre Lombard, à la manière de plus intelligent que Pierre Lombard, mais très suivant Pierre Lombard, le début de saint Thomas. Puis saint Thomas découvre Aristote, qui lui permet d'avoir une métaphysique de l'intelligence et de la volonté. Il s'en sert directement pour sa vision théologique. Vous avez beaucoup de traités de la très sainte Trinité, des pères de l'Église, mais il leur manque une métaphysique. Alors, on a une théologie incoative. Pourquoi seule la métaphysique peut nous servir pour une théologie? Il faut se poser le problème. C'est très bien de l'affirmer, mais je l'affirme en m'appuyant sur l'encyclique. Donc, c'est pas une donnée de foi. C'est pas une donnée de foi. Il n'y a pas une doctrine théologique, une révélation sur ce que doit être la théologie. Parce que la théologie, c'est l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre des théologiens de l'Église. Est-ce qu'un protestant peut-il faire une théologie ? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas éclairé de la foi catholique peut-il faire une théologie? Non. Parce qu'il y a un défaut dans l'adhésion de foi. Il croira certaines révélations communes auxquelles nous croyons, mais comme, de fait, il a quelques trous, quelques failles dans un traité de la théologie, tout s'en ressent. Alors, il se rapproche, mais il ne sera pas directement théologie. Alors, pourquoi la foi ne peut se servir que de notions convertibles avec l'être. Donc les cinq notions transcendantales. Ça, il faut les connaître, hein, comme le taux de l'homme, les cinq. L'être est convertible avec res, avec unum, avec aliquid, avec bonum, avec verum. la foi ne peut pas se servir d'une philosophie moins raide que la métaphysique. Une philosophie sur l'âme, sur les opérations vitales, vue non pas d'un point de vue métaphysique, mais d'un point de vue tout simplement descriptif. Il faut que toutes ces notions soient purifiées et convertibles avec l'être pour qu'elles soient directement utilisables avec la révélation. Pourquoi ? C'est ça le donné devant lequel... Parce que la foi adhère à la parole de Dieu, qui est une parole éternelle, de signification éternelle, et de signification royale, digne de foi. Dans n'importe quelle révélation, on est toujours à un niveau qui est divin. Alors, qu'est-ce qui peut s'allier à une parole divine qui révèle le divin ? Seul des notions qui sont convertibles avec la notion d'être. Une métaphysique de l'être rejoint une métaphysique de la vérité en Dieu, de la bonté en Dieu. Alors, en tant que convertibles avec l'être, elles peuvent être utilisées parce qu'elles ne diminuent pas la parole de Dieu. Autrement, on diminue la parole de Dieu dans un cadre de notions humaines. Diminuer la parole de Dieu en la ramenant à un cadre humain, c'est nécessairement n'en saisir qu'une partie. Les hommes ont diminué la vérité. C'est une parole dans le psaume. Et les théologiens qui se servent de notions qui ne sont pas les notions métaphysiques convertibles avec l'être diminuent la vérité de la parole de Dieu, diminuent sa profondeur. Il reste au niveau du devenir, au niveau historique, et n'atteigne pas l'être. Il faut des notions qui touchent l'être et qui sont convertibles avec l'être pour que, de fait, ces notions gardent une profondeur, une extension qui peut directement être en connexion avec la parole de Dieu. Oui, quand vous dites par exemple « Dieu est Père », si vous prenez « Père » dans le sens d'un Père humain, ça ne va pas. Père est pris dans le sens de principe d'être, fécondité d'être. Alors là, ça va. Et tout ce qui serait inférieur à cette convertibilité de l'être n'aurait pas la même profondeur, la même extension que la notion même d'être. Dieu est. Quand il prend son langage, il est. Donc, par la notion d'être, il y a un pont avec le mystère même de Dieu. Et je puis prendre chez moi, dans mon intelligence, l'intelligibilité divine correspondant à l'intelligibilité humaine. J'ai pas le courage de regarder ça en face. Je ramènerai la parole de Dieu à des choses qui ne sont pas vraies. Je ramènerai Dieu à l'homme. Je ramènerai l'intelligence de Dieu au mode humain. Je ramènerai la volonté de Dieu au mode humain de l'amour. Alors la théologie, à la place d'expliciter la signification de la parole de Dieu, la théologie vient limiter la signification divine de la parole de Dieu. Tout est du côté de la signification, puisque l'être divin étant absolu, ne permet pas. Il faut bien saisir qu'on ne peut se servir par rapport à la parole de Dieu qu'avec des notions qui ont une signification absolue, qui n'ont pas de limite. Si le mot « parfait » impliquerait des limites, je ne pourrais pas l'appliquer à Dieu. Je ne pourrais pas dire « Dieu est parfait ». Parce que si le mot « perfection » impliquer bonté humaine, je ne pourrais pas l'appliquer à Dieu. Il faut que ce mot perfection implique la perfection et implique une perfection qui, en soi, n'implique aucune limite. Et tous les attributs de Dieu sont comme ça. Autrement, je ramènerai Dieu à quelque chose de limité. C'est pour ça que seule la métaphysique de l'être ou les notions que seule la métaphysique permet d'être au service de la parole de Dieu, sans diminuer cette parole de Dieu. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je dis, c'est dit dans l'encyclique du Saint-Père, Fides et Ratio. Et je crois que ça n'avait jamais été dit aussi clairement, aussi nettement. Alors, ce qu'il faut bien remarquer aussi, c'est quand il s'agit de la vie même de Dieu, on se sert à ce moment-là d'analogie, non plus au niveau de l'être, mais au niveau de la vie. Tout le traité de la très sainte Trinité, dans saint Thomas, est au niveau de la vie. Pourquoi ? Parce que justement, on dit un être et trois personnes. Alors, si vous êtes au niveau de l'être, vous direz trois dieux, trois êtres différents. Non, c'est un seul être qui est infini et donc qui se donne à nous comme Père, comme Fils, comme Esprit Saint. Alors, quand je dis « comme », ce n'est pas conventionnel. Faut, attention, ce « comme » veut dire justement qu'on se sert de l'analogie, du principe. Alors, si on ne voyait pas la différence entre être et vie, on tomberait dans des erreurs graves. Parce qu'on dirait trois vies en Dieu, parce que trois personnes. Non. Il y a une vie en Dieu et trois personnes. C'est évident, c'est un mystère. Hein. Je ne le comprends pas. Mais je dis quelque chose qui n'est pas contradictoire. Parce que pour que ce soit contradictoire, il faudrait dire un être et trois êtres. Ah, vous dites un être et trois personnes. La personne est autre chose que l'être. Elle montre en Dieu, évidemment, l'être. Et la vie en Dieu, c'est la même chose. Alors, quand vous dites une vie en Dieu pour les trois personnes, cette vie unit les trois personnes, mais cette vie aussi est au niveau des trois personnes. Alors vous mettez analogie de similitude. On regardait comment, au point de vue de la vie, il peut y avoir une distinction au niveau de la vie et dans l'être, pas de distinction. C'est évidemment un mystère, mais ce n'est pas contradictoire. C'est constamment, en théologie, quand nous regardons le mystère de la très sainte Trinité, ou même le mystère du Christ, vous dites dans le Christ deux vies, la vie divine et la vie humaine, et un essai. C'est un gros problème d'aujourd'hui, parce que beaucoup de théologiens disent dans le Christ, il y a deux essais. Deux existences. textes de saint Thomas sont délicats. Alors, quand les textes de saint Thomas sont délicats, soyons intelligents et tranchons en faisant appel à notre intelligence. Dans le Christ, il y a un être, puisque la nature humaine est assumée par le Verbe de Dieu. Donc, il y a un être et trois personnes. Alors vous voyez cette chose très extraordinaire et mystérieuse. Là est le mystère. Il y a un être et trois personnes distinctes qui chacune ont leur être commun. Vous ne pouvez pas dire qu'en Dieu, il y a trois êtres dans la très sainte Trinité. Je vous donne ces quelques exemples pour vous faire comprendre que la théologie, c'est l'œuvre du croyant qui assume son intelligence humaine au service de sa foi. Et si le théologien fait ça, c'est pour pouvoir communiquer aux croyants le fruit de sa contemplation. Vous voyez, dans le mystère du Christ, quelque chose de tout à fait différent. Vous voyez, dans le Christ, il y a deux natures, nature divine, nature humaine, et un essai, un être. Parce que la nature humaine subsiste dans le Verbe. Donc, elle existe dans le Verbe. Et la nature humaine du Christ à toutes les qualités de la nature humaine. Mais l'être de cette nature humaine n'est plus humain, il est divin. Et c'est pour ça que vous pouvez dire que Marie est mère de Dieu, et pas seulement mère du corps du Christ. Elle est mère de Dieu. Parce que sa maternité se termine à l'existence de la nature humaine du Christ, et cette existence de la nature humaine du Christ est celle du Verbe, en raison de l'union hypostatique. Donc, c'est la maternité de Marie se termine à une réalité divine, le Christ. Alors, ce qui est important de voir, c'est que la métaphysique commence par notre expérience, et la théologie commence par l'adhésion de foi à la parole de Dieu. L'expérience divine que nous faisons d'adhérer à la parole de Dieu. C'est pour ça que le théologien tout de suite touche quelque chose d'absolu. Il est au terme. La foi est le commencement de la vision béatifique. Entre la foi et la vision béatifique, il y a une continuité. Ma foi est faite pour la vision béatifique. Mais la foi faut saisir ça avec beaucoup de force, de bien comprendre que la philosophie part de mon expérience et la foi part de la parole de Dieu. Alors, suivant qu'on a des significations particulières sur la parole divine, on aura par le fait même des théologies différentes. C'est bien la parole qui est l'essentiel. Or, Dieu, quand il me parle, ne me parle pas comme un professeur, heureusement. Il me parle comme un père. Un père ne parle pas comme un professeur. Vous voyez, quand je vous disais la théologie monastique et la théologie universitaire, hein, comprenez, théologie monastique regarde toujours la parole de Dieu comme la parole qui vient d'un père. La théologie universitaire regarde la parole de Dieu comme venant d'un maître et à la longue d'un professeur. C'est très important, ça. Nous avons, nous, la possibilité de faire une théologie monastique. Parce que nous ne sommes pas université. Et en faisant une théologie monastique, nous appuyons sur la parole d'un père. La parole d'un père, à la différence de la parole d'un professeur, la parole d'un très bon professeur est toujours ordonnée à la vérité. La parole d'un père, est-ce qu'elle est toujours ordonnée à la vérité? Elle est ordonnée à faire que son fils puisse vivre du même bonheur que le père. C'est l'héritage que nous confie le père. Et cet héritage,